Prêt, mon lieutenant.
Seconde.
Intitulé Écologie sensible, une soirée d'échange était organisée le 3 octobre dernier chez Josette, le café libéré de Charleville-Mézières. Corinne Morel-Darleux y présentait ses essais. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et alors nous irons trouver la beauté ailleurs. La tactique y était.
Voilà, alors, on est super content de recevoir Corinne Morel-Darleux pour deux ouvrages, hein, pour déjà donc plutôt couler en beauté que flotter sans grâce que vous avez là, qui date de 2019, donc il me semble, et de 2023. Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins, et on reviendra aussi donc sur l'expérience qu'a vécue Corinne donc au Rojava au Kurdistan. Alors, cet ouvrage-là en ce moment on l'a pas en librairie. Mais c'est un ouvrage collectif, mais qui est vraiment super intéressant. Et nous, ça faisait trois raisons de plus pour inviter Corinne. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole déjà à Antoine pour poser une question donc à Corinne elle-même.
Alors, en lisant vos textes, du coup, il y a deux en fait concepts qui reviennent tout le temps en fait, qui sont un peu le fondement en fait de vos propos. Et je me dis, pour introduire en fait au mieux vos livres, je pense que je vous invite juste en fait à du coup nous expliquer de manière assez rapide du coup ces deux concepts qui sont d'une part le refus de parvenir et de l'autre la dignité du présent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir du coup ces deux idées?
Ouais. Bah, bonsoir déjà à toutes et à tous. Juste dire quand même que je suis vraiment contente d'être là aussi, parce que ça fait un bout de temps qu'on se tourne autour et qu'on se court après et qu'on avait du mal à trouver une date depuis la sortie du premier en fait, donc à peu près depuis la création de chez Josette. Donc voilà, sachant que moi je suis assez loin d'ici, c'est 10 heures de train en fait pour venir pour moi, parce que je suis dans la Drôme. Et dans la Drôme, je suis évidemment pas juste à côté de la première gare TGV, donc voilà, ça fait des longs déplacements, mais donc voilà, je suis vraiment contente d'être là ce soir. Et donc merci pour l'invitation, et merci à toutes celles et ceux qui ne sont pas au spectacle, au théâtre ce soir. J'ai compris qu'il y avait une grosse concurrence en termes d'agenda. Alors, pour revenir à la question, le refus de parvenir et la dignité du présent, c'est des termes que j'aborde notamment dans le premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Le refus de parvenir, c'est... Je l'aborde en fait pas par le biais théorique ou conceptuel, hein, je l'aborde par l'histoire d'un navigateur. Qui s'appelle Bernard Moitessier, qui, il y a un peu plus de 50 ans, a participé à la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. C'est la toute première du genre qui a été organisée par un journal anglais. Et Bernard Moitessier, avec d'autres, s'est lancé dans cette course qui a été haute en rebondissements, en abandon, en drame également. Et il se trouve que Bernard Moitessier, après avoir accompli ce tour du monde à la voile sur plusieurs mois, alors qu'il était en passe de remporter la victoire, il n'était plus qu'à quelques encablures du retour sur la côte et donc de gagner la course, a eu toute une espèce de délibération intérieure, hein, qu'il explique dans un livre qui s'appelle La Longue Route, qui est un peu son carnet de bord de cette course, où il s'est tout d'un coup demandé en fait s'il avait vraiment envie de rentrer, s'il avait vraiment envie de cette victoire, s'il avait vraiment envie de retrouver des hordes de journalistes qui l'attendaient de fait effectivement à son retour, s'il avait vraiment envie de retourner dans un monde gangréné par l'argent et la marchandise, hein, il l'a dit lui-même de cette manière-là. Et en fait, au terme de cette délibération intérieure, il dit que non, qu'en fait, il n'a pas du tout envie de ça. Et donc, il va changer de cap, hein, et il va poursuivre en mer jusqu'aux îles du Pacifique, où il va s'installer et puis avoir par ailleurs toute une activité de militantisme environnemental, notamment sur des projets de bétonisation déjà du petit port où il avait trouvé refuge. Et donc, je commence par cette histoire-là. En fait, je m'appuie sur cette histoire-là pour pas rentrer par un truc conceptuel, théorique, mais par un fait qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui, à l'époque, avait vraiment fait la une, avait défrayé l'actualité, parce que c'était déjà très étonnant à cette époque-là d'aller à contre-courant de la victoire, de la réussite, de la médiatisation, pour venir illustrer cette idée de refus de parvenir, qui est un concept qui a été développé la première fois par Albert Thierry, qui est un instituteur anarchiste au début du XXe siècle, et qui a pas mal circulé dans les milieux libertaires et anarchistes, mais assez peu en dehors de ces milieux-là, avec une définition qui était plutôt une définition du refus de parvenir comme étant un refus de se saisir des privilèges que la classe dominante tend comme des colifichets aux autres classes sociales pour les inciter finalement à quitter leur classe d'origine et à se mettre au service du système, quoi. Et donc il y avait vraiment une idée de non-trahison de sa classe sociale, de ne pas se faire avoir en fait par justement les colifichets tendus par la bourgeoisie ou les classes dominantes. Et dans « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner le refus de parvenir aujourd'hui en fait, au XXIe siècle. En lien avec les questions à la fois sociales et environnementales, notamment sur le fait de peut-être venir re-questionner la notion de réussite, le refus de parvenir comme refus de réussir, si la réussite est définie comme une accumulation matérielle de richesses qu'on peut étaler et qui détermine un statut social dans la société. Étant donné que ça a évidemment des impacts à la fois en termes sociaux, mais aussi, on le sait aujourd'hui, en termes environnementaux, puisque c'est bien aussi cette accumulation de matière et de biens, et notamment de biens de luxe, et tout le mode de vie qui va avec, dont on sait, et c'est aujourd'hui largement documenté, que c'est en grande partie à l'origine d'un certain nombre de dégradations des écosystèmes, environnementales, etc. Donc voilà, donc ça c'est un des fils effectivement que je déroule dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et un autre fil que je déroule que tu mentionnais, c'est la dignité du présent, qui est en fait une notion qui est venue en écrivant le livre. On a dit tout à l'heure qu'il était sorti en 2019, hein, ça fait que moi je l'ai écrit en réalité plutôt en 2018, et en 2018 on était vraiment, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, au creux de la vague sur les questions de militantisme, c'est-à-dire 2018 c'était avant les Gilets jaunes, c'était avant la création de tout un tas d'organisations type Extinction Rebellion, les soulèvements de la Terre, etc. C'était avant la démission de Nicolas Hulot, c'était avant les grèves pour le climat, c'était avec Greta Thunberg. Bon, je mets volontairement des choses là de niveaux très différents et qui sont politiquement très, très hétérogènes. Mais 2018, moi j'avais le sentiment vraiment d'un gros creux. Que ça faisait quand même déjà des années et des années qu'on se démenait. Pour moi, ça faisait déjà une grosse dizaine d'années que j'étais sur les sujets notamment d'écosocialisme, donc qui mêle les questions d'écologie et de lutte sociale. Et avec le sentiment qu'on remportait quand même pas beaucoup de victoires, qu'on pouvait pas dire que le rapport de force s'inversait en notre faveur. Et que, en gros, on était quand même en train de perdre la bataille, quoi. Et du coup, ce sentiment-là, moi, j'ai été traversée comme plein d'autres personnes, et comme on l'est encore, sans doute, de temps en temps, par vraiment l'envie de lâcher l'affaire, en fait. De lâcher l'affaire, d'aller cultiver mon jardin, de profiter du bonheur tant qu'il y en avait un peu encore à grappiller. Et la dignité du présent, c'est vraiment la notion qui est arrivée en réponse à ça, en fait, qui consiste à dire que quand on s'engage dans une cause, on ne le fait pas parce qu'on pense, parce qu'on est sûr de gagner à la fin. On le fait simplement parce que c'est la cause qui nous semble juste à défendre à un moment donné, quoi. Et que donc, même quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, il y a une dignité du présent à poursuivre la lutte, même si ça semble vain. Voilà, il y a tout un... Et puis je parle voilà, de la gratuité du geste, de la beautiful lose, de l'élégance aussi qu'il peut y avoir à poursuivre malgré tout des batailles, même quand elles semblent perdues d'avance. Et quand elles semblent perdues d'avance, parce qu'on n'est jamais totalement à l'abri d'une heureuse surprise. Voilà, pour ces deux premiers...
Merci. Ouais.
Alors moi, je vais faire un saut, du coup, en 2023, pour la sortie donc du deuxième ouvrage. Nous irons trouver la beauté ailleurs. Et je voulais savoir, donc il y a 4 ans et demi entre les deux...
Ouais.
Entre les deux, j'allais dire réflexion militante, parce que je sais que tu n'aimes pas le terme « essai ». Et effectivement, quand on le lit, c'est pas un essai. Donc je dirais quelque chose qui est un petit peu à mi-chemin, mais c'est ma façon de moi de le voir, entre l'autofiction et le récit de voyage et la réflexion militante. Et je voulais savoir un petit peu donc ce qui t'avait poussé en fait à revenir vers ce format-là, parce qu'entre-temps, peut-être que certaines parmi vous le savent pas, c'est que en fait Corinne elle a écrit plusieurs romans, la littérature de jeunesse. Donc retour donc sur des réflexions, et notamment, on comprend à la lecture de ce roman qu'il y a eu un voyage en Inde qui a été en quelque sorte décisif, qui a été le point de départ en fait pour l'écriture de ce livre. Est-ce que tu peux nous...
Alors c'est vrai que il s'est écoulé un peu de temps entre les deux. Alors j'ai effectivement fait un détour par la fiction, et je pense que c'était aussi lié au fait que moi, je suis avant tout une grande lectrice de romans, davantage que d'essais. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à parler d'essais dans le cadre de ces deux ouvrages, parce que moi, je ne suis pas une universitaire, je ne suis pas chercheuse. Ce n'est pas des essais au sens où il y a une thèse avec des références qui vont faire, voilà, et puis un plan argumenté et logique. Voilà, moi je suis dégagée de toutes ces contraintes-là, et c'est plutôt des fils de réflexion que des choses très, très analytiques, au moins en termes de plan. Voilà, il y a eu ce détour par la fiction aussi parce que comme nous toutes et tous, mais je me coltine beaucoup le réel déjà. Je me le suis beaucoup coltiné pendant 10 ans. J'étais à la direction nationale du Parti de gauche en charge des questions d'écosocialisme. Donc moi, ça fait 15 ans en fait que les rapports, je les vois passer, que les études prospectives, je les vois passer. Après la sortie de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, on est quand même rentré dans le tunnel Covid, guerre en Ukraine, Gaza, etc. Et j'avoue que j'avais plutôt envie d'écrire du roman, de la fiction, et de me sortir du marasme que de me saisir de ce réel-là et de retourner à aller le disséquer, le charcuter, etc. Donc il y a d'une part ça, et puis il y a d'autre part un truc peut-être plus personnel, mais le fait que... Le premier ouvrage, là, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, quand il sort, moi c'est mon premier livre, je le sors aux éditions Libertalia, qui est une petite maison d'édition indépendante, anarchiste, où ils sont 2,5, et concrètement on ne met pas toutes les chances de notre côté a priori pour que ce soit un grand succès de librairie. Et contre toute attente, et sous les radars médiatiques, par le boulot des libraires indépendants, par les lectrices et les lecteurs, ce livre se met à se diffuser de manière assez exceptionnelle. Là, on en est à plus de 50 000 exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup pour un essai et sans beaucoup de relais médiatiques. Et en fait, je crois que j'étais un peu inhibés ou intimidés par le succès du premier. Qui fait que bah, le deuxième, on a un peu peur de décevoir. On est, enfin voilà, on se dit bon, peut-être qu'il y a un malentendu qu'il faut pas trop lever, je sais pas. Je blague, mais c'est vrai que c'est un peu intimidant. Et puis j'avais évidemment pas envie de répéter ce que j'avais. Enfin, j'avais déjà mis beaucoup de choses dans le premier. Et mine de rien, il est pas très épais, mais il est quand même assez dense. Et donc, je voulais attendre d'avoir autre chose à dire pour en écrire un deuxième sur le même type de format. Et il se trouve effectivement qu'il y a un déclic hein, qui a eu lieu après plusieurs départs ratés, hein, parce que j'ai essayé de faire des plans et tout, mais ça ne marchait jamais. Et ce déclic, il s'est passé de manière totalement inattendue, parce que voilà, moi, même sur les romans, je ne suis pas trop dans les milieux littéraires un peu parisiens, avec ben voilà, les prix littéraires et tout ça. Mais il se trouve que j'ai reçu un mail de l'Institut français en Inde qui m'invitait à me joindre à une délégation d'autrices et d'auteurs françaises menée par Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, pour un gros festival international de littérature à New Delhi. Ce qui était voilà, complètement vraiment surprenant, inattendu et évidemment hyper excitant. J'ai eu un petit moment quand même de doute, notamment parce que je me suis engagée vis-à-vis de moi-même à essayer de moins prendre l'avion et à limiter mes déplacements et voilà. Donc là, il y a eu une petite négociation avec moi-même qui fait que j'y suis quand même allée, j'avoue. Mais en me disant, par contre, j'y vais pas pour les 4 jours de festival. Si j'y vais, j'y reste plus longtemps. Donc la négociation m'était vraiment très favorable. Et donc, en fait, passé le temps du festival, j'ai poursuivi pendant 3 semaines par moi-même. Et je suis descendue dans le sud de l'Inde, du côté de Pondichéry. Et là, je me suis greffée. Enfin, je me suis même carrément incrustée, en fait, dans le minibus d'une équipe de recherche franco-indienne qui réunissait des agronomes, des géologues, des sociologues, des anthropologues, qui partaient à quelques heures de route dans une zone tribale montagneuse du centre de l'Inde, et où voilà, j'ai vraiment découvert, alors vraiment survolé parce que je ne suis pas restée très longtemps et qu'on n'avait pas beaucoup de langues communes, mais en observation directe, découvert un territoire hein, qui est resté voilà, qui a été relié par une route bitumée seulement il y a 10 ou 15 ans et vraiment organisé en société agraire de subsistance, mais qui était vraiment au moment de la bascule. Au moment de la bascule, ça veut dire arriver des ordiphones, arriver surtout des entrepreneurs agricoles qui arrivent avec les semences, les engrais, les pesticides, le cahier des charges et l'engagement d'acheter la récolte à la fin pour des cultures qui sont destinées à l'exportation, qui ne sont pas consommées sur place, qui ne font pas partie des habitudes alimentaires, des cornichons par exemple, qui étaient destinés à l'Europe. Et c'est vraiment ce petit bout de terrain-là qui a réenclenché plein de réflexions que j'avais déjà eues par le passé, notamment sur ce sentiment de me dire, mais en fait, ce que je vois là, c'est pas une société agraire du passé, mais c'est peut-être au contraire un de nos futurs possibles, en termes de... voilà, enfin bon, je vais pas tout développer, parce que là, sinon, je vais vraiment aller très loin, mais en tout cas, c'est ça qui a redéclenché, et puis probablement le fait aussi en Inde d'être... propulsé dans un réel qui était tellement différent du nôtre que j'avais à nouveau envie de m'en saisir, en fait. Donc voilà, et c'est ça qui a déclenché, en fait, l'envie d'écrire là-dessus. Et puis ensuite dans le livre, ça déroule sur plein d'autres choses qui sont des choses que j'ai accumulées pendant les 4 ans qui ont passé entre les deux. Et qui était en stock.
Alors justement, par rapport aux choses que tu déroules dans,
dans cet ouvrage, il y a, alors le sous-titre s'appelle Gymnastique des confins, et ce qui est intéressant, c'est que dans la notion de confins, en fait, tu théorises le besoin de s'échapper, en fait, de cette société, capitaliste, industrielle, technologique, et de ce besoin de se couper du monde, mais alors pour le coup, tu l'interroges par toutes les facettes, c'est-à-dire par le voyage, par une, je sais pas, une balade en forêt, par le besoin de se créer enfin des réalités virtuelles différentes, et à la fois tu interroges aussi les limites de ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, il y a la littérature, la lecture, qui reste finalement centrale, mais j'ai l'impression, alors peut-être que tu vas nuancer un petit peu, que c'est finalement la littérature qui, par ses imaginaires, subit le moins de limites, en fait, et permet le plus de s'échapper. Mais globalement, il y a toute une réflexion dans cette ouvrage, et c'est vraiment super aussi, par rapport aux militants aussi, la condition de militants et de militantes, comment parfois s'échapper, il y a besoin de couper d'une réalité qui peut être parfois très anxiogène, très fatigante.
Bah oui, effectivement. Enfin, c'est vrai que j'interroge beaucoup. C'est que je pose en fait la question de cette gymnastique ou de ce va-et-vient en fait qu'on est quand même nombreux et nombreux à éprouver entre inquiétude et émerveillement, entre envie de lutter et puis découragement, entre des moments collectifs et le besoin d'avoir aussi des moments à soi, entre des moments où on est dans l'action et des moments où on a besoin d'être plus dans la réflexion, tous ces va-et-vient, en fait, cette gymnastique-là, pour dire que c'est normal, en fait. Pour dire que c'est normal et pourquoi j'ai éprouvé le besoin de dire que c'était normal, c'est que moi ça fait 15 ans que je milite énormément à des endroits différents selon les périodes, mais avec pas mal d'actions sur le terrain et j'ai l'impression que parfois on peut s'oublier là-dedans, en fait, on peut s'oublier dans le militantisme et dans le collectif. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, en fait. Et de dire qu'on peut avoir besoin, par moment, de s'occuper de soi ou de s'évader, effectivement, par la lecture ou par tout autre moyen, ça ne vient pas faire de soi un mauvais militant ou quelqu'un d'individualiste. Et c'était ça, surtout, qui m'importait de redire. Donc pour une partie de ce que tu disais. Et puis après, effectivement, sur du coup, ce besoin d'évasion, mais ce n'est pas évasion au sens mer turquoise et cocotier. Hein, c'est évasion au sens de... Il y a des moments où, personnellement, et je ne pense pas être la seule, j'ai juste besoin de qu'on m'emmène ailleurs, en fait. C'est évidemment aussi tout le succès aujourd'hui de Netflix, des séries, entre autres choses, mais notamment de ça. Et donc la question, c'est comment on vient nourrir ce besoin d'ailleurs, de divertissement, etc. C'est l'occasion d'interroger la question de la littérature, de qu'est-ce que ça peut apporter aux luttes. Qu'est-ce que ça peut apporter aux politiques au sens large du terme, et qu'est-ce que ça peut aussi ne pas y apporter, parce que moi je reste très attachée à la liberté de création et au fait que et je sais que c'est pas très populaire en ce moment, mais moi je reste très attachée aussi à une littérature de pur divertissement, en fait, parce que de temps en temps avoir 2 heures où on se plonge dans un bouquin dont on va garder aucun souvenir une semaine après, ben, c'est pas grave, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je considère que c'est pas grave. Moi, de temps en temps, j'ai aussi besoin de vraiment juste poser mon cerveau, me prendre un bon polar qui révolutionne pas la littérature ni la création littéraire ou je ne sais quoi, dont je ressors pas beaucoup plus intelligente. Mais au moins, ça m'a fait une soupape, en fait. Et c'est un peu tout ça aussi que j'interroge. Et c'est vrai que le livre... c'est peut-être effectivement aujourd'hui l'outil qui a le moins de limites, dans le sens où, comparé au voyage, l'empreinte carbone est quand même beaucoup plus légère. Et que en termes de dépendance au numérique, un livre, ça reste, ça n'a pas besoin de se recharger. En cas de panne électrique, c'est toujours accessible. Et si ça tombe dans l'eau, ça se sèche pas. Plus ou moins, mais quand même.
Comme des damnés, roulant leur amas de déchets, incisifs coprophages, adorant son rocher. Nous avons engrainé artefacts et matières, filé toujours tout droit sans sortir des ornières. Lourds, obscènes et obèses à se péter les artères. Monde, gonflé de trop-plein, luisant sous le regard de ceux qui ne sont rien, de celles qui crèvent de faim. Divaguer sur l'après, coincé dans le présent, déplorer un avenir qu'on voit déjà en sang et rêver d'un passé qui ne reviendra jamais, écrasé sous le poids des plaisirs fabriqués, les caissons de cargo surchargés à ras-bord, la lourde indifférence des foules télévisées et le béton glacé des monuments aux morts. Le moderne est ennui, cynisme, médiocrité, déglingue culturelle et dévissage armé. Saccage, naufrage, carnage. Drame généralisé, vallée ensevelie et sommeil croulé, gouffre béant et lit des rivières asséchées. Le monde n'en finit plus, amer de s'effondrer et la ligne de crête de rétrécir sous nos pieds. Écoute, les dentelles sourdes, on gronde dans la rue. Il va falloir descendre, apprendre le refus et de nécessité faire enfin une vertu. Sœur Louve et Vanupier, piratesse et sourcier, imparvenu, marin, poète et romancier, pisteur de monde sauvage, maverick enchanté, laissons-les à l'ubris et aux pulsions clastiques. Serpentons, furtifs, sous les radars numériques, là où la tectonique fait jouer les interstices. Dans les bas-fonds peuplés où des volcans s'agitent. Là se trament des étoffes étroitement tissées. Là se tapit le droit de couler en beauté. Soulever chaque montagne, chaque pierre et chaque tombeau pour archipéliser nos îles et nos ruisseaux. Accueillir ceux qui grognent, serrent des poings et en chient. Louer l'insignifiant, pointer cibler l'ennemi, fuir la guerre. Déserter pour mieux désorienter nos impulsions guerrières et puis s'organiser sur des bases romantiques et révolutionnaires. Lucide, brave et amère, belle, belle et désenchantée. Serre rimée et poésie, désir et politique, sans drame au fond de soi, droit jusqu'au Pacifique. Édifier l'élégance et hacker le futur, déchaîner le présent, cogner, péter les murs, saboter à point nu, planter à corps perdu, pleurer et célébrer chaque espèce inconnue. Se démener pour sauver chaque dixième de degré, dévorer avec grâce chaque jour comme le dernier. Piqûre d'ortie, parfum, la mer, sifflet de train, roulement sans fin, tonnerre au fond d'un cirque alpin. Rejoindre au creux des lits les hommes qui font des rêves, opposer nos corps et nos envies singulières, nos chants de sirènes et nos gorges emplies de sève au triste uniforme et l'ennui des bannières. Convoquer les racines du ciel et moi tessier. Suivre radieuse aurore, la Sonoma Vallée. Faire code d'art et d'honneur sans crainte d'être désuet. Rejoindre les lucioles jusqu'à l'obscurité. Ask no one, never turn back and never surrender. Manier une belle épée et cuisiner des fleurs. Boire la lumière à s'en cramer rétine et veine. Et rayonner comme des putains d'anges éternels. Cultiver l'albédo jusqu'à l'incandescence, liane vivide et sauvage, foudroyante d'indécence. Et puis la joie un jour de s'évanouir dans l'ombre, s'employer discrètement à seconder le monde, avant de crever sans trop de ressentiment, parce qu'on aura vécu fier et libre, dignement.
Alors, moi de mon côté, j'avais une question qui est plus presque philosophique, mais quand je vois le concept du coup de refus de parvenir, je me dis il y a l'idée aussi d'échapper à des modèles de réussite, d'échapper à la pression en fait de la société qui vous dit réussir c'est ça, réussir c'est gagner sa vie, si t'as pas une Rolex avant tel âge c'est que t'as tout raté, disait un certain ancien président détestable. Et d'accord, on cherche ok à échapper à un modèle. Néanmoins, en échappant à un modèle, finalement, moi je vois apparaître sur les réseaux sociaux notamment, je vois apparaître dans les médias l'image de personnes qui ont décidé de rompre avec leur vie, ont décidé de rompre avec leur réussite professionnelle, qui décident de s'installer dans des milieux provinciaux, dans des milieux éloignés. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a un autre modèle qui se construit, en fait, un autre modèle qui devient un autre modèle de société. Et en fin de compte, quand je vois, moi, le concept, si on le prend d'un point de vue vraiment essentiel, le refus de parvenir, vraiment chercher à échapper à tout modèle, chercher à échapper, en fait, à la pression de la société, et que finalement, on se rend compte qu'en cherchant à échapper à un modèle, on en crée un autre, finalement, ça rejoint un peu ce que tu décris. Tu décris une société comme un monstre qui, finalement, dès qu'on essaye de lui échapper, finit par nous rattraper. Et finalement, en ayant cette réflexion-là, je n'ai pas pu m'empêcher finalement de penser au mythe oedipien. En fait, Oedipe, on lui dit, une prophétie a été écrite, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Et finalement, en cherchant à échapper à la prophétie, il tue son père et il épouse sa mère. Alors là, c'est une question corsée. Et en plus de ça, c'est une question à double volet. Donc on répond déjà au premier et après, il y aura le second qui est un petit peu tristoun. Mais bon, je ne fais que teaser. Alors voici le premier.
Bah, c'est pas vraiment une question, mais...
C'est plutôt une réflexion.
Ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à déplier dans tout ça parce que... Bon, parce que d'abord, ce contre-modèle qui émergerait de, si j'entends bien, de... d'un espèce de nouveau retour à la terre, de néo-ruralité, de vivre en harmonie, blabla, c'est quand même d'abord un... Enfin, si c'est un contre-modèle, c'est un contre-modèle qui est ultra limité, en fait. Il y a très peu de personnes qui ont la possibilité matérielle, les conditions matérielles d'existence qui leur permettent de faire ce choix-là. C'est déjà... Enfin, il faut quand même déjà avoir la possibilité... de se dire je change de vie, éventuellement je plaque mon boulot, je déménage, enfin ça suppose quand même un alignement des planètes, enfin qui est justement pas un alignement des planètes mais quelque chose de très matériel qui fait que ça, c'est un modèle qui est pas généralisable. Et par ailleurs, en réalité, je crois que c'est peut-être aussi pour cette raison là que ça reste en réalité très minoritaire, c'est-à-dire que nous, dans nos bulles de filtre, on a l'impression que beaucoup de personnes sont dans cette démarche-là, mais à l'échelle de la société, c'est ultra, je pense que ça reste ultra marginal. Cela dit, c'est vrai que ça a recréé, à défaut d'un modèle, en tout cas une espèce de tendance.
Un fantasme.
Ou un fantasme qui est à nouveau susceptible de générer de la frustration pour toutes celles et ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Et de générer aussi de l'illusion et de la déception pour celles et ceux qui en ont la possibilité, qui le font, et puis qui se rendent compte que c'est pas si paradisiaque que ça, la vie à la campagne, quoi. Je fais un peu court, pardonnez-moi, hein, c'est caricatural, mais comme il y a beaucoup de choses à aborder. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais réagir. Et après, sur Oedipe, moi, je suis pas du tout une spécialiste de ça, mais il me semble que, en fait, pour moi, en tout cas, ça fait écho à la notion de tragédie. J'ai souvent ce sentiment qu'on est dans une tragédie, au sens où la tragédie, c'est vraiment quand on sait que ça va mal se finir. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc un peu inéluctable. Et en 15 ans, je dois dire que plus le temps passe, et plus malheureusement, j'ai l'impression qu'on franchit effectivement des caps, qu'il y a des espèces d'effets cliquets, c'est-à-dire des effets où une fois qu'on a passé, c'est quasiment impossible de revenir en arrière. C'est le cas évidemment, c'est le cas sur les limites planétaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire ces seuils que les scientifiques ont identifié, qui sont des seuils à ne pas franchir, parce que si on les franchit, on rentre soit dans des effets avec un caractère d'irréversibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir en arrière, soit on rentre en terre inconnue, en fait, c'est-à-dire dans des espaces sur lesquels il n'y a plus de modélisation scientifique qu'on soit en capacité de faire. Donc on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quels effets aussi dominos, boules de neige ou de boucles de rétroaction positive, pour prendre les termes scientifiques, peuvent se mettre en branle. Et ça, ça clairement, on est en train de les franchir les unes après les autres, ces limites-là. Plus des effets, alors qu'ils ne sont peut-être pas des effets cliqués ceux-là, mais quand même une dégradation aussi du débat public, démocratique. Moi, en 15 ans, j'ai vu arriver justement les réseaux sociaux dans le milieu politique, et notamment dans le milieu politique institutionnel, des partis et des élections. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir vu dévisser le débat politique parce que en fait l'injonction qui est venue avec les réseaux sociaux d'être présent, de réagir rapidement, d'être clivant et de créer la polémique pour augmenter les réactions, de manière plus générale d'être médiatiquement visible, et ben en fait ça c'est très chronophage, en fait ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et tout le temps et l'énergie qui sont mis aujourd'hui sur de la communication politique ne sont plus mis ni sur de l'action politique, donc au sens de l'action qui permet d'ores et déjà de changer la vie plutôt que de conquérir le pouvoir par les urnes de manière très hypothétique par ailleurs. On y reviendra peut-être. C'est moins de temps aussi juste pour lire, pour débattre vraiment, pour échanger. Enfin bon, voilà, moi j'ai l'impression que ça a quand même vraiment fait beaucoup de mal. Je prends que ces deux exemples-là, mais qui sont quand même pas mineurs, mais pour venir illustrer ce que je disais sur la tragédie et ce sentiment quand même. Enfin, c'est pour ça que je parlais de dignité du présent aussi déjà dans le premier.
À la collapsologie.
Sentiment que voilà, qu'on va pas vers du mieux. Mais que pour autant, il restera toujours des raisons de lutter, quoi. Que pour autant, il ne faut pas baisser les bras parce que même si on est persuadé qu'on va vers du pire, il y a pire et pire, et il y a plusieurs manières d'y arriver, et que par ailleurs, il y a une telle dose d'inconnus qu'on a quand même tout intérêt à continuer à s'y préparer, à amortir les chocs et à laisser le moins de monde sur le bord du chemin, quoi, en gros.
Ok. Alors du coup, j'ai le deuxième volet de ma question qui partait toujours sur cette question du refus de parvenir une fois qu'on a renoncé, en quelque sorte, à des privilèges qui nous sont présentés. Bon, moi, j'ai peut-être d'une manière un peu détournée, en fait. J'ai pas pu m'empêcher de penser au nature writing. Je ne sais pas si tu connais ce mouvement. Alors, c'est un genre littéraire américain. Donc, le nature writing, en fait, c'est un concept finalement assez simple. Ça met souvent en scène des personnes qui décident de retourner vivre dans la nature. Donc il y a l'idée de... Et en fait, dans le nature writing, c'est la nature est finalement en quelque sorte un personnage du roman. Et c'est vrai que ce qui a été... ce que j'ai trouvé saisissant quand j'ai essayé de lire des romans de nature writing, eh bien, c'est que souvent ce sont des romans tristes. Il y a quelque chose d'assez cruel, en fait. Je pense notamment, par exemple, à Suquan Island de David Vann, où, voilà, là, c'est hardcore, c'est un père qui veut renouer avec son fils, il va s'isoler sur une île au large de l'Alaska, et, spoiler alerte, ça se finit pas bien. En fait, là où je veux en venir, c'est que refuser un modèle, en fait, c'est sortir des sentiers battus, et finalement, en sortir... tout le monde n'est pas préparé à ça. En fait, il y a l'idée, y a quelque part, il faut se préparer psychologiquement, se retrouver seul, se retrouver isolé, se retrouver coupé en fait, des modèles habituels. Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là, de comment finalement se préparer à sortir un petit peu de ces modèles de réussite ? Parce que toi, tu as expérimenté cette sortie, donc est-ce que toi-même... Je sais qu'il n'en est pas question, forcément. En tout cas, dans ce que j'ai lu, il n'en est pas question, mais d'autres personnes qui seraient peut-être moins préparées, en fait, est-ce qu'il y a une préparation à ça ?
Enfin, moi, je ne vis pas toute seule dans une cabane. Hein.
C'est ça.
Déjà.
Ouais.
Et y a quand même,
là, l'exemple que je cite, il est très hardcore.
Il
n'y
a quand même pas beaucoup de personnes qui sont dans cette mm-hmm. logique-là. Et dans le nature writing, il y a quand même aussi Richard Wanagès ou Jim Harrison, où c'est pas justement l'isolement. Parce que là, c'est plutôt de l'ordre du survivalisme guerrier, quoi. Enfin bon. Donc, en tout cas, moi, je suis pas trop dans ce trip-là du tout. Et je pense qu'il y a justement, au contraire, aujourd'hui, des choses hyper intéressantes qui émergent, notamment dans les réseaux écoféministes, sur la perspective de subsistance, par exemple. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a notamment un gros bouquin qui est sorti, qui a été traduit récemment et publié à la lenteur, mais qui est sorti il y a une trentaine d'années en Allemagne, de Maria Miss et Veronica Benold-Thompson, hein, qui s'appelle « La perspective de subsistance ». Et puis il y a plein de travaux autour de ça aujourd'hui, notamment ceux de Geneviève Pruvot, qui rejoignent aussi les travaux d'Aurélien Berland. En tout cas, je vais le dire de manière un peu simple, mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut s'auto-organiser collectivement pour assurer nos subsistances sans dépendre totalement, ou en tout cas en réduisant nos dépendances de l'institution, de l'État, du numérique et de tout ce qui finalement nous échappe, quoi. Et comment on se réapproprie en fait cette question de subsistance. Et ça, je le dis parce que justement, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est notamment que, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour se rendre assez vite compte que tout seul, c'est pas possible, quoi. Et que ça, c'est aussi une manière de renforcer les liens d'interdépendance. Comme on les vit, moi, je suis dans un petit village d'une centaine d'habitants. Je veux dire, on parle même pas ni d'interdépendance, ni de subsistance, ni de je sais pas quoi. En fait, ça se fait comme ça s'est toujours fait, qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes compétences, les mêmes outils, les mêmes savoirs, et que du coup tout ça circule, et voilà. Donc c'est de se réapproprier un peu ça, et de se réapproprier aussi des savoirs manuels, artisanaux. Il y a des initiatives hyper intéressantes en ce moment. Il y a notamment ce qui s'appelle les chantiers reprises de savoir, qui s'organisent depuis 2 ans un peu partout en France, sur plusieurs jours, se réapproprier des savoirs à la fois théoriques et manuels, sans mettre de hiérarchie entre les deux, et sans être sur une hiérarchie de sachant, non sachant, mais voilà, et de réapprendre à faire des trucs soi-même en fait. Je crois pas qu'il y ait encore eu, mais moi je mettrais volontiers là-dedans de réapprendre à lire une carte routière par exemple. Voilà, pour prendre un exemple de ces savoirs dont on est dépossédé par le numérique par exemple. Celui-là, il est énorme, quoi. Et je le dis d'autant plus tranquillement que moi-même, j'utilise le GPS maintenant dès que je me déplace. Et que je pense que... Et encore, moi, j'ai 50 ans, quoi. Donc, j'ai vécu avant l'arrivée du numérique. Mais il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de jeunes adultes et d'adultes qui ne connaissent pas autre chose. Et c'est, je crois, un cas un peu trivial. Mais dans l'agriculture, c'est le cas aussi. Moi, c'est des questions sur lesquelles je travaille aussi pas mal. Dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de grosses exploitations sur lesquelles les tracteurs sont guidés par satellite. Sur lesquels l'exploitant, parce que pour le coup, là, on parle vraiment d'exploitant, a une application qui lui dit à quel moment, quoi faire, sur quelle parcelle. Et ça, c'est aussi des savoirs qui se perdent, quoi. Donc, voilà, il y a aussi tout un volet... du coup, pardon, je crois que je me suis pas mal éloignée de la remarque de départ, mais donc, en tout cas, voilà, un truc, non pas tant de comment on fait pour survivre seul au milieu de la nature, mais plutôt de comment on fait pour se réapproprier nos propres subsistances et choisir nos propres dépendances, en fait, plutôt que de dépendre de systèmes, d'institutions ou de technologies sur lesquelles on n'a pas la main, quoi. Et qui, en plus, dont on n'est pas complètement certain de la pérennité, quoi.
Alors, justement, puisque tu t'es pas embrayé sur la question du numérique, il y a quelque chose qui constitue, alors, une des, j'allais dire, un questionnement central du nouveau bouquin, mais je sais pas si... Enfin, c'est surtout une question que tu poses, plutôt au début de l'ouvrage, par rapport à un futur... en lien avec le numérique. Et une remarque très pertinente que tu fais, c'est qu'en fait, la plupart des dystopies, donc peut-être l'héritage de la science-fiction, imagine un monde où le numérique a pris une place tellement importante dans notre vie que, il opprime nos libertés, il nous contrôle complètement. Et là, les exemples sont foisonnants. Par contre, tu dis, il y a très peu de dystopies, donc de romans d'anticipation, science-fiction, qu'on envisageait quelque chose sans numérique. Alors que toi, tu penses que plutôt le futur à imaginer, justement auquel se préparer, c'est ça. Est-ce que tu
peux... Oui, et pas que pour des raisons idéologiques. Même si pour moi, une utopie.
Et de probabilité, en fait.
Même si pour moi, une utopie, effectivement, se déroulerait plutôt dans un monde sans numérique. Voilà. Assez clairement, mais là c'est même pas tant ça que je voulais mettre en avant. C'est effectivement, comme tu le dis, pour des raisons de probabilité et puis pour des raisons matérielles, géophysiques, qui sont que en fait, en termes de pénurie de matière à venir et de ressources, la question des métaux qui sont appelés vitamines, c'est des métaux vitamines du numérique. C'est le nickel, le cobalt, le lithium, mais même l'aluminium dans certaines études, sont parmi les ressources qui risquent de venir à manquer le plus rapidement, en fait. Je ne suis pas Cassandre et je ne suis pas scientifique, donc je ne me hasarderai pas à faire un pronostic, mais d'autres le font. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, en fait, ceux qui s'avancent le plus sur des dates à venir de début de pénurie sur ces métaux-là, c'est des rapports commandés par des gros groupes d'assurance, voire de réassurance, c'est-à-dire les assureurs des assureurs. Et aujourd'hui, en fait, que ce soit sur les risques de pénurie, sur les risques de conflits armés, etc., c'est souvent dans le secteur banque-assurance qu'on trouve les études les plus pointues et les plus intéressantes. Ce qui est quand même, ce qui devrait quand même aussi nous mettre un peu la puce à l'oreille. Écoutez, et donc, en tout cas, et voilà, tout à fait. Et il y a donc Aurore Stéphan avec Systex. qui est une association qui fait un énorme travail de recensement justement de ces études et de travail aussi sur l'extraction minière dans le monde, ses impacts, ses limites, les limites aussi des fausses solutions qui nous sont présentées, type recyclage des métaux, etc. Parce que voilà, ils ont des études qui mettent bien en avant le faible rendement, notamment du recyclage. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que ça, additionné au fait que, bah, par exemple, en Grèce, ça fait 3 étés qu'il y a un gros risque annoncé par le gouvernement grec de gigapanne d'électricité. Dû au fait que il y a beaucoup de clim qui est mise en route en même temps et que ça pèse sur les infrastructures, que si on se souvient l'hiver dernier, tout d'un coup on a des ministres qui nous ont dit qu'on risquait là aussi de manquer d'électricité en France parce qu'il y avait des réacteurs nucléaires à l'arrêt et qu'il fallait mettre des cols roulés et baisser le chauffage chez soi. Et si je dis ça, c'est parce que non seulement il y a la question des ressources et des métaux, mais il y a aussi la question du risque de panne, quoi. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu une panne d'électricité récemment un peu longue, c'est-à-dire pas une demi-heure. Moi, j'ai vécu ça. Ça donne quand même des trucs assez improbables, hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une panne d'électricité de 24 ou 48 heures, ça paralyse tout. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé suite à une dégradation volontaire de panneaux de répartition télécom. En fait, tout d'un coup, on ne peut plus payer par carte, on ne peut plus non plus retirer d'argent. Plus rien ne fonctionne, quoi. On n'a plus Internet. Là, en l'occurrence, on n'avait plus non plus de téléphone. C'est vraiment, on bascule dans une autre vie, quoi. Et donc voilà, pénurie à venir, un jour c'est sûr, dans combien de temps je ne saurais le dire, mais des métaux vitamines du numérique, risque accru de panne d'électricité, voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça me semble étonnant que les milieux dits technocritiques, non pas qu'ils insistent sur les risques de voir le numérique finir d'envahir nos vies, parce que ça je suis assez d'accord là-dessus, mais qu'il n'y ait pas davantage de réflexion ou de fiction sur qu'est-ce qui se passe demain si les écrans s'éteignent. Et là je parlais tout à l'heure de retirer de l'argent, etc. Mais au-delà de ça, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions aussi de santé mentale. Et je me dis, l'effet, en fait, sur des personnes qui ont toujours vécu avec le numérique, avec un téléphone dans lequel on stocke les photos, les souvenirs, les musiques, qui est le lien avec les potes, avec la famille, etc. Le jour où ça s'arrête, où ça s'éteint, c'est aussi, d'un point de vue affectif, émotionnel, c'est aussi une déflagration. Et donc je suis étonnée que, pour moi c'est un peu un angle mort aujourd'hui, alors que la probabilité que ça arrive me semble aller en croissant. Donc c'est ça que j'interroge aussi.
De manière très maladroite, en fait, finalement, c'est à ça que je voulais en venir. En fait, tu y réponds exactement. Quand je posais ma question, en fait, ma référence au Sequoia Island et au nature writing un peu hardcore, finalement, c'était ça. C'est à ça que je voulais en venir. En fait, finalement, c'est la question de la santé mentale. Si au final, on sort de tout, en fait, quoi. Enfin, et là, au final, tu viens exactement de répondre.
Après, c'est comme beaucoup de choses, malheureusement. Bizarre, et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on le répète depuis déjà tellement longtemps et sur tous les tons. Je ne sais plus comment le dire. Mais c'est que, en fait, plus on attend, et en fait, il ne faut pas que j'utilise ce « on ». Parce que, en fait, moins il y a d'actions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour aller dans le sens de la décroissance, matériel et numérique, moins on s'organise en amont, en fait, pour anticiper les chocs à venir, pour les amoindrir, les atténuer, pour développer des réseaux de solidarité. Et plus tout ça tarde à venir, voire est contrarié, en fait, par les politiques publiques, plus le choc risque d'être dur et injuste et inégalitaire. D'où l'intérêt de tout ce qui se fait et de tout ce qui s'est redéveloppé ou développé, notamment depuis le Covid, en termes d'autogestion, sur des lieux autogérés, sur des cantines populaires, sur des réseaux de ravitaillement des luttes, sur des systèmes de soins communautaires aussi, comme il y en a qui se sont développés dans le Limousin. Voilà, tout ce qui permet, en fait, de pas attendre, en fait, pour commencer à reprendre en main toutes ces questions-là qui ne font que s'aggraver et qui vont continuer à s'aggraver, quoi.
Avec l'IA, ça ne va rien arranger.
Comment ?
L'IA ne va rien arranger.
Ah l'intelligence artificielle...
Mais c'est ce que niveau consommation.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Et puis, en plus, quand on voit aujourd'hui les certaines applications de l'intelligence artificielle, enfin, j'ai fait un petit essai sur toutes ces questions de décroissance numérique pour les 15-25 ans, ce qui était vraiment une gageure, hein, parce que parler de décroissance numérique aux 15-25 ans, je savais vraiment pas comment j'allais m'y prendre. Dans une collection qui est assez chouette, qui s'appelle la collection Alt à la Martinière Jeunesse. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est des tout petits formats comme ça, très légers, à 3,50 euros. Le contrat, c'est maximum une heure de lecture. Donc on fait vraiment tout pour que ce soit très accessible en termes de lecture. Et dedans, je reprends des exemples comme ça, et notamment un qui a toujours beaucoup de succès, c'est le système de reconnaissance faciale pour les distributeurs de croquettes pour chats. Et c'est un vrai truc, en fait. C'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on est aujourd'hui dans une société où, à un moment donné, il y a des gens qui se réunissent dans une salle de réunion pour se dire « Ouais, c'est une super idée, on va développer ça et on va mettre de l'argent là-dessus et on va mettre des gens là-dessus et on va y dédier du temps et de l'énergie pour mettre sur le marché un système de reconnaissance faciale de distributeurs de croquettes pour chats, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc... Enfin, c'est dingue, quoi. On en est là, quoi.
Comment le petit bouquin, s'il te plaît?
Le titre, c'est « Être heureux avec moins point d'interrogation ». Donc, voilà, c'est un exemple qui peut paraître anecdotique. Mais en fait, moi, plus ça va, et moi, je le trouve anecdotique, et plus je le trouve... vraiment symptomatique, en fait. Ça dit quelque chose, quoi. Et surtout, j'insiste. Pardon, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis. En fait, en amont, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont réunis au marketing, à la gestion, au RH, etc. Et qui se sont dit que c'était une bonne idée, quoi. C'est, enfin, voilà. Et des investisseurs, et enfin, voilà.
C'est surtout que personne n'est objecté pour dire que c'est absurde.
Voilà, il faut prendre la mesure de ça, quand même, quoi.
Oui, il y a une citation que tu pouvais s'émerveiller du monde tout en s'en inquiétant. Ouais. Je sais pas si c'est parce que ça vient de Maurice, c'est dans un livre ou c'est juste pour une référence?
Alors, moi, je l'ai entendue une fois. Elle était attribuée à Paul Virilio. Et après, j'ai lu que non. Okay. Enfin, j'ai pas lu que non, mais je ne l'ai pas retrouvé. Okay. Mais donc, a priori, ça viendrait plutôt de lui.
Ok, et du coup, j'ai deux...
Je sais pas si c'était exactement ça, mais c'était quelque chose de proche.
Tout à l'heure, tu parlais du fait de notre dépendance au numérique, et le fait de... mais même, je vois dans les réseaux militants, ce numérique, il y a un fond, j'ai foutu qu'on ne sait pas s'organiser en termes de communication et tout.
Bon, on le faisait
avant. On le faisait avant, mais on n'a pas vu ça.
C'est une question qui revient souvent, une remarque qui revient souvent et qui est très légitime, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît impossible. Et en même temps, moi, ce que je rappelle à chaque fois, c'est que l'arrivée de l'iPhone grand public, c'est 2007, quoi.
Ouais.
C'est il y a à peine plus de 15 ans, quoi. Et en fait, moi, j'ai grandi, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de mail, il n'y avait même pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et pardon, mais des conquêtes sociales avant Internet, il y en a quand même eu deux, trois, des manifs, des... Enfin, Donc je me dis bon que si on y est arrivé avant, on devrait pouvoir y arriver après. Sauf qu'on perd. On perd, enfin là aussi il y a du savoir qu'on perd quoi.